the power of Mega Blast. Et salut à tous et à toutes. Il est 18h30, vous êtes sur Radio Fadjet 94.2 FM et vous écoutez Select et Reset, votre émission 100% jeux vidéo. Je suis Jack et comme d'habitude, je suis avec Sera. Et bonsoir. Avec Black Bee.
Bonsoir tout le monde.
Et donc on vous a concocté un petit programme plutôt sympatoche pour cette semaine, avec pas mal de choses. Donc on commencera par la rubrique news, où on va essayer de parler du maximum de choses possibles. On aura une petite chronique sur le jeu Risk of Rain 2, qui sera faite par Black Bee. Et ensuite, la pause musicale qui sera présentée par Sera. Et on finira par faire un résumé de la BlizzCon qui a eu lieu il y a maintenant une semaine et qui présente toutes les nouveautés du studio Blizzard. Voilà, bah on va commencer direct par les news. C'est parti! Alors, qu'est-ce qu'on a dans les news? Sera, il semblerait que tu aies chopé la date pour l'extension de Monster Hunter.
Et oui, il s'agit de Iceborne, l'extension du très populaire Monster Hunter. Donc bon, les joueurs consoles sont évidemment servis depuis longtemps, mais les PCistes devront attendre le 9 janvier 2020. Ou pas d'ailleurs, parce que depuis l'annonce, le chiffre 9 a disparu de l'affiche Steam du jeu, et pour simplement annoncer janvier 2020, espérant que l'extension soit pas trop repoussée.
Petite autre news sur côté Xbox, Black Bee, t'as un truc.
Et oui, Microsoft propose un nouveau service, donc qui aurait déjà commencé en test aux États-Unis et en Angleterre. Donc le Xbox Console Streaming, c'est un service de streaming avancé permettant de diffuser depuis votre machine les jeux sur le support de votre choix. Donc sur votre tablette, sur un téléphone Android, sur votre écran de télé, même si vous n'avez pas la console, du moment qu'elle est allumée chez vous.
Voilà, donc en gros, bah, si vous êtes pas, vous n'avez pas accès à votre console, vous pouvez jouer quand même sur votre Xbox One depuis à peu près n'importe où.
Et oui, qui sait, on pourra peut-être même y jouer sur Switch par exemple.
Un jour peut-être, si les partenariats se goupillent correctement, hein, ça a l'air d'être la volonté de Xbox en tout cas. Voilà. Ok, on va parler de Death Stranding qui aurait une sortie sur PC.
Exactement, nouvelle sortie PC attendue je dirais. Donc c'est officiel maintenant, Death Stranding, donc le premier jeu de Kojima production va sortir sur PC. Alors on pensait au départ que ce serait une exclue PS4, donc rapport à la grosse implication de Sony dans le projet, mais la rumeur d'une sortie PC est enflée, on va dire, depuis quelques temps. Et du coup, un tweet du 28 octobre de Kojima Productions a mis fin à l'incertitude, car on sait désormais que le jeu est annoncé pour l'été 2020 sur PC. Pas forcément si étonnant au final quand on y réfléchit, parce qu'on imagine que la stratégie de Sony c'était principalement d'écarter ses concurrents directs sur le marché console, donc Nintendo et surtout Microsoft, et nul besoin pour ça de bloquer le marché PC.
Voilà, bon, bah, plutôt une bonne nouvelle pour les PCistes. On va continuer à parler PC par rapport à Electronic Arts qui serait de retour sur Steam.
Et oui, c'est Ben Blake, le Global Community Lead de chez DICE et EA, qui annonce la nouvelle. Donc dans un tweet du 29 octobre, il indique que ce retour commencera par la sortie de Star Wars Jedi Fallen Order, donc le prochain jeu estampillé Star Wars, sur Steam, tandis que d'autres jeux sont en train d'être préparés pour faire de même, dont les Sims 4, Battlefield 5, FIFA 20, Unravel 2 et Apex Legends. Donc de plus, EA permettrait aux utilisateurs de Steam de souscrire directement à l'offre EA Access dès l'année prochaine. Une bonne nouvelle pour les utilisateurs de Steam qui avaient vu les jeux d'Electronic Arts disparaître de la plateforme lorsqu'Origin avait été créé. Doit-on y voir un aveu d'échec pour Origin ?
Faut avouer que c'est pas la meilleure plateforme.
Non, ce n'est pas la meilleure
de jeu. Et du coup, bah, c'est pas mal que ça revienne sur Steam parce que Steam c'est très bien. On va reparler de la Chine. On en avait déjà pas mal parlé dans la dernière émission, et on va parler de contrôle d'identité dans les jeux vidéo.
Exactement, retour en Chine, le gouvernement chinois monte d'un cran sur sa lutte contre l'usage abusif, je fais des guillemets avec les doigts, ça ne se voit pas, des jeux vidéo. Les plus grands éditeurs chinois comme Tencent par exemple avaient déjà mis en place des systèmes pour limiter le temps de jeu, mais les règles vont désormais se durcir assez sévèrement. Donc l'identité des joueurs va être contrôlée, et donc ceux de moins de 18 ans, ils verront leur durée réduite de 3 heures par jour à 1h30 seulement. Sauf en période de congé où les 3 heures resteront autorisées quand même, on n'est pas des monstres. Donc et ils auront quand même interdiction de jouer entre 22h et 8h du matin. Pareil pour les achats in-game, ils seront interdits avant 16 ans et limités à l'équivalent de 25€ par mois. Et enfin, il sera impossible aux joueurs de jouer à des jeux ne correspondant pas à leur tranche d'âge. Un projet qu'on ne peut que qualifier d'ambitieux, mine de rien.
Oui, bon, voilà. Alors, toujours dans la liberté du côté de la Chine, hein, c'est pas foufou. Même si, par exemple, quand même la démarche de limiter les achats par mois
pour les plus jeunes,
les moins de 16 ans, c'est quand même. Ça donne à réfléchir. C'est
ça évitera
pas mauvaise,
certaines tragédies qu'on voit chez nous avec des gamins.
On est peut-être obligé que ça soit au-delà les parents qui fassent les achats eux-mêmes, quoi.
C'est ça.
Bon, on va parler encore un truc en lien avec Tencent, parce qu'on va parler du prochain jeu Supercell, hein, qu'on avait dit, hein, ce studio appartient à Tencent, et de leur prochain jeu Rush War.
Et oui, Supercell, donc les producteurs de Clash of Clans, Boom Beach, etc., donc annonce l'annulation de son dernier projet, Rush Wars. Qui n'a pas vraiment rencontré le succès escompté depuis le lancement de sa bêta. Intéressant de voir que l'éditeur a choisi du coup d'annuler le produit plutôt que d'en sortir un qui risquait de ne pas rencontrer le succès.
Ok, hein, ça serait pas mal que d'autres y pensent aussi. Bon, même si là c'est un petit budget, mais je pense par exemple à Anthem de chez Electronic Arts.
Anthem, c'est toi qu'on regarde.
Anthem, ouais. Oui,
voilà.
On regarde.
S'il aurait pu être repoussé ou annulé, ça aurait peut-être été pas plus mal. Voilà, on va parler donc des sorties pour les deux prochaines semaines. Alors, je vous ai trouvé le 12 novembre. Donc aujourd'hui sort Doctor Who The Edge of Time, un jeu en réalité virtuelle, hein, qui sortira sur PC et PS4 dans l'univers de Doctor Who de la dernière saison apparemment. Le 14 novembre, on a la sortie de Kingdom Under Fire 2 sur PC, un jeu sortie européenne, puisque le jeu est sorti en Asie il y a maintenant une dizaine d'années.
À peu près une dizaine d'années.
Le 14 novembre, on a la sortie aussi de Age of Empires 2 Definitive Edition sur PC, hein, donc le remake de Age of Empires. Le 15 novembre, c'est grosse journée de sortie. On a Pokémon Épée et Bouclier qui sort sur Switch, Star Wars Jedi Fallen Order sur PC, PS4 et Xbox One. Et sur ces trois plateformes sortira aussi le même jour Terminator Resistance, donc un jeu de tir à la première personne dans le futur de Terminator, des anciens films, surtout celui du 2, quoi.
Ça coïncide avec la sortie du dernier film.
Ça coïncide avec la sortie du dernier film. Et le 15 novembre encore, hein, il y a aussi l'extension Les Sims 4 à la fac qui sort. Donc voilà, si vous êtes fan des Sims, il y a toujours du contenu sur ce jeu. Le 19 novembre, le tant attendu Shenmue 3 sur PC et PS4. Alors tant attendu, hein, bien sûr, pour les vieux joueurs qui attendent la suite depuis maintenant un peu plus de 15 ans. Hein, mais ils auront enfin une conclusion. À voir si le jeu est bon. Pareil, le 19 novembre, pour les fans de football, il y a Football Manager 2020 qui sort sur PC. Le 21 novembre, petite sortie de jeu familial, puisque c'est Astérix Obélix XXL3 qui sort sur PC, PS4, Switch et Xbox One. Voilà, donc un jeu qui était plutôt bon, en tout cas pour le deuxième volume.
Oui, donc, c'était des bons petits jeux.
Donc voilà. C'était tout pour les news. On va passer maintenant du coup à la chronique de Risk of Rain. Mission 1, start! Alors, Risk of Rain.
Eh bien, Risk of Rain, un jeu de Oppo Games publié par Gearbox Software. Donc, c'est un jeu qui est sorti initialement en mars 2019, en accès anticipé et qui s'y trouve toujours. C'est un TPS coopératif jouable à 4 sur un modèle dit Isaac Vania, avec une composante de héros shooter. Vous pouvez incarner une petite dizaine de héros différents dans des arènes fixes qui se succèdent rapidement et aléatoirement pour des parties endiablées. Le principe est simple, vous êtes largué dans votre pod, dans une arène, avec vos amis, et vous commencez à être hacké par toute une horde de monstres plus dangereux les uns que les autres. On y gagne de l'argent pour ouvrir des coffres présents sur le terrain qui contiennent des items. Ces items donnent des bonus uniques à chacun des items, hein. Coups critiques, effets sur les attaques, feu, glace, foot, des choses plus rigolotes, de la vitesse de course, etc. Et chacun de ces items est visible sur votre personnage, lui donnant des faux airs de baroudeur blindé de matos.
Ouais.
on parcourt les niveaux, on cherche ce passage pour aller combattre un boss, et on passe au suivant. Petite particularité du jeu, plus vous restez longtemps dans les niveaux, plus la difficulté augmente. Par conséquent, il n'est pas conseillé de flâner pendant des heures à la recherche du moindre coffre, mais plutôt d'optimiser sa progression en fonction du feeling. C'est un des points forts du jeu. Le theory crafting, justement, donc c'est le fait de calculer sur papier ou par expérience ce qui sera le plus efficace sur un personnage. Tel personnage va avoir besoin de coups critiques, tel personnage va avoir besoin de tirer rapidement, tel personnage aura besoin de plein d'effets sur ses tirs, par exemple. Car d'un personnage à l'autre, les loots seront plus ou moins intéressants, vous devrez les changer, les transformer, les modifier en fonction de ce qu'on vous propose sur le terrain, et pour atteindre, en fonction de l'aléatoire de ce qui va se passer, puisque vous n'avez pas le contrôle parfait, le meilleur set d'équipement possible pour votre personnage pour aller le plus loin possible dans l'aventure.
Ouais.
Donc, les personnages sont multiples, on a des combattants au corps à corps, des pistoleros, un archer, une créature alien qui bombarde le terrain de plantes parasites, il y en a pour tous les goûts, c'est assez amusant. L'esthétique est simple et épurée, elle assure un fonctionnement même sur des machines relativement modestes, et la musique rétro est du plus bel effet. Elle marque surtout la direction artistique qui évoque les films de science-fiction des années 50, avec ses lots de monstres en plastique et ses scaphandriers en aluminium. Le jeu actuellement est en accès anticipé, et il prévoit sa release d'ici le printemps 2020, avec une roadmap de contenu à venir qui est respectée, hein. En thème, on te regarde encore une fois. Un bon petit jeu pour moins de 20€ pour jouer avec ses amis et se faire plaisir en tuant plein de bestioles.
Ouais, bah plutôt sympa. On y a joué un petit peu, nous, cette semaine. Passé quelques heures dessus et on s'est bien marré.
C'est ça.
Ok, Risk of Rain 2. Un petit jeu très sympa. Ça va être l'heure de la pause musicale. Alors, c'est quoi la découverte de cette semaine, Sarah?
Eh bien, c'est pour fêter les 15 ans de la sortie de Metal Gear Solid 3, donc de la sortie au Japon, évidemment. Hein. Donc,
ah, c'est la sortie aux États-Unis même.
Aux États-Unis,
ouais,
d'accord.
C'est le mois de décembre au Japon, ils ont
eh ben,
un
du
mois
coup,
de retard.
Nous, on est en Europe, donc on va imaginer, on est en 2005, hein, puisqu'il est arrivé en 2005 en Europe. Ouais. Donc, vous êtes en 2005, vous venez de finir Metal Gear Solid 3, donc avec sa fin qui, bon, on va pas la spoiler, mais bon, elle m'a un peu mal quand même, je pense qu'on peut dire ça. Et là, en générique de fin, vous prenez ça, Way to Fall de Star Sailor. C'est une chanson qui date de 2001 et qui figure sur le tout premier album du groupe, et elle a été découverte plus tard par Kojima, qui cherchait à la base un autre groupe du nom de Stella Star, et puis il s'est planté dans sa recherche, il est tombé sur Star Sailor, et un heureux hasard, puisque on comprend pourquoi elle l'a choisi, car elle colle parfaitement à la fin du jeu. C'est un titre puissant et déchirant, on peut interpréter ça comme le discours d'un soldat lassé qui projette sur son fils sa propre expérience malheureuse de l'armée. Donc pour ma part, presque 15 ans après, chaque écoute me redonne cet exact sentiment que j'ai eu manette en main en 2005. C'est un très grand moment de musique et de jeux vidéo.
Donc le morceau s'appelle Way to Fall du groupe Star Sailor et c'est tout de suite dans Select Reset.
Tell you where to go, but they won't know. So you'd better take it all. They'll tell you what they know. I need to be
he'll tell you where to go, but they won't know.
C'était le morceau Way to Fall du groupe Star Sailor, générique de fin de Metal Gear Solid 3, un morceau plein d'émotions. Mais on va repartir dans du plus joyeux, etc. Et on va parler des sorties qui ont été annoncées à la BlizzCon, la convention de chez Blizzard. C'est là où on dévoile le gratin. C'est aussi le théâtre des tournois mondiaux d'e-sport sur les jeux Blizzard, hein, comme Overwatch, Hearthstone ou World of Warcraft. Mais effectivement, c'est bien là qu'on dévoile le gratin. Tous les jeux qui vont sortir soit dans l'avenir à venir, soit sur du plus long terme. Et cette année, on a le droit à plutôt une bonne édition.
Pas mal de choses.
Comparé à l'année dernière qui était assez mitigée, où on avait le droit à un remake, un portage mobile, et puis pas vraiment d'annonce de nouveaux jeux.
Ah, Diablo Immortal, c'était ça. Hein.
La déception que ça a été.
Oui.
Alors qu'en vrai, Diablo Immortal, ça a l'air... En vrai, plutôt sympa comme jeu, et gens qui ont pu le tester cette année à la BlizzCon disent « Ouais, le jeu, il est sympa, en fait. »
Et puis c'est un jeu qui cible le marché mobile asiatique, donc de toute façon.
Mais en gros, c'est une version de Diablo 3.
Le trailer avec à la fin sur mobile, ça avait refroidi tout le monde, quoi.
Ouais.
Bah, évidemment. Ouais.
Enfin, voilà. Donc au niveau des annonces cette année, il y a du nouveau pour Hearthstone, une nouvelle extension qui s'appelle L'Envol des Dragons, qui sortira courant décembre, et aussi Hearthstone Battleground, un nouveau mode de jeu du type Battle Chaser, comme les Auto Chess, League of Legends, Teamfight Tactics ou Dota Overlord. Ça permet à 8 joueurs de s'affronter avec une team, avec leurs héros et les meilleurs serviteurs possibles, et ça sera disponible à partir du 12 novembre, c'est-à-dire aujourd'hui.
Blizzard qui fait preuve de beaucoup d'imagination une fois encore.
Non, mais il se place sur un style qui fonctionne très bien, et ils ont l'air de proposer quand même leur propre formule, et en vrai, il y a moyen qu'ils fassent vraiment quelque chose, et ça redonnera peut-être un peu de vie à Hearthstone.
Oui, tout l'intérêt de ces petits modes de jeu sont avant tout de pouvoir jouer vite et de pas se prendre la tête. Donc,
oui. Alors c'est quand même des parties longues pour Hearthstone. C'est normalement une partie d'Hearthstone, ça dure une dizaine de minutes, à peu près en gros. Là, il faut compter que ça sera des parties qui dureront facilement une vingtaine de minutes.
Ça reste un transport.
Mais ça reste faisable dans un bon trajet de bus.
Voilà, c'est ça.
Donc, passons ensuite à l'annonce de Overwatch 2. En gros, le jeu va avancer dans le futur, ou plutôt le présent, parce que c'est un peu confus, l'histoire dans Overwatch. On sait jamais vraiment où ça en est. Il y a pas trop, la temporalité, elle est très compliquée à saisir. La première cinématique qu'on voyait, c'était Winston qui relance l'Overwatch, qui est un groupe de super-héros, entre guillemets, qui s'est dissous.
Un peu comme G.I. Joe, quoi.
Et puis finalement, toutes les cinématiques qu'on a eues par la suite, en fait, ça se passe plus ou moins avant ça.
C'est ça.
Et puis dans le jeu, on joue n'importe quel personnage de la Overwatch, et puis on se fout sur la gueule avec l'équipe adverse.
Mais oui, parce
que. Donc il n'y a pas vraiment de.
Il n'y avait pas vraiment de lien, puisqu'on jouait les méchants comme les gentils, quoi. Finalement.
Voilà. Un peu particulier, et du coup, là, ce coup-ci, ce Overwatch 2, qui se révèle avec une cinématique pourrait faire un très bon film d'animation, comme toujours, où c'est le retour de la team Overwatch qui va défendre Paris contre une invasion de mechas et de robots. La cinématique est super cool, c'est assez explosif et tout.
Ah, oui.
C'est très fanservice aussi, parce que du coup, on replace les personnages en leur mettant leur petite technique du jeu et en faisant des trucs super stylés.
D'ailleurs, on replace Mei au centre de l'image, tiens, est-ce que ça vient de... Est-ce que c'est un choix tactique?
Je ne pense pas, parce que ça met quand même beaucoup plus de temps que moins d'un mois pour préparer une...
Mais ça se commande à l'avance.
C'est vrai que l'ironie de la situation est intéressante.
Mais c'est un peu drôle. Bref, voilà. Ce nouveau jeu, qu'est-ce qu'il prévoit? Alors, une campagne en PvE coop, donc un vrai mode de jeu avec une histoire. Des missions aussi PvE faisables avec tous les persos. Dans ce mode PvE, on aura une mécanique de leveling et de choix de talent. Alors moi j'ai regardé un petit peu les images du jeu et ça promet des choses assez sympas parce que ça va modifier les techniques de base des persos pour en faire des trucs assez explosifs.
Ça me rappelle un petit peu ce qu'ils avaient fait sur StarCraft 2 en fait.
Genre par exemple, Mei qui a une technique pour se mettre dans un bloc de glace et normalement devenir insensible, qui lui permet d'être juste invulnérable. En fait là par exemple, elle a un talent qui fait que si elle se met dans son bloc de glace, elle va geler tous les ennemis qui sont autour d'elle.
C'est ça.
Voilà. Donc c'est vraiment fait pour se battre contre vraiment des hordes de PNJ.
Oui, puis surtout, ça va permettre de s'affranchir un petit peu de la logique d'équilibrage des personnages, puisqu'on va chercher le fun dans un mode solo.
Oui, vraiment d'aller chercher le fun. Et du coup, la première mission qu'ils ont montrée, qu'ils ont dévoilée en démo dans la BlizzCon, se révèle plutôt sympa, en fait. C'est avec des persos qui sont fixes, du coup. Il y a vraiment une histoire. Mm-hmm. Les persos parlent entre eux au fur et à mesure qu'ils avancent dans la mission. Et il y a une petite cinématique au début, une à la fin. C'est entrecoupé, ça bouge plutôt bien. Les techniques entre les personnages sont vraiment posées pour synergiser. Donc c'est plutôt cool.
Et puis il y a de la coop de prévu là-dessus.
Et il y a de la coop. Oui, oui, c'est en coop.
Ouais. T'as pas 4.
Mais
c'est
du
ça,
coup,
voilà.
tu parlais de Horde et tout ça. Ça fait pas un petit peu, justement, un truc à la DRG, Left 4 Dead, etc. Ça pourrait être sympa dans l'univers.
Un petit peu, ça sera plutôt les missions de héros qui seront faites à part de la campagne.
Ouais.
Alors, au-delà de ça, on a aussi un nouveau mode de jeu qui s'appelle le mode push. Donc, en gros, il y aura un mecha qui va pousser des plateformes, enfin, une plateforme de chaque côté pour chaque équipe. Le but, c'est d'escorter le mecha pour pousser la plateforme le plus loin, voire jusqu'à la base ennemie pour gagner. Et donc, il faudra prendre le contrôle du mecha pour l'escorter et du coup le faire avancer pour notre team. Donc ça a l'air plutôt sympa comme nouveau mode de jeu. Bien sûr, il y aura des nouveaux héros, des nouvelles maps. En moyenne, faut compter que ça sera deux fois plus grand. Une mise à jour graphique, le jeu sera un peu plus beau. Et petite chose à laquelle on ne s'attendait pas du tout, le mode PVP sera partagé avec celui d'Overwatch 1.
Alors, est-ce qu'on ne s'y attendait pas du tout ? Quand on voit les annonces, ça a quand même un bon petit côté grosse extension d'Overwatch plutôt qu'un vrai 2. Donc, finalement, c'est quand même normal qu'ils proposent que les joueurs ne soient pas séparés.
Oui, bien sûr. Ils vont vraiment proposer une mécanique de jeu solo, coop, en PVE, que le premier jeu ne faisait pas du tout. Mais c'est vrai que pour le multi, ça restera le même, en fait. Et toutes les nouveautés qui seront apportées dedans sera faites aussi dans Overwatch 1, et les joueurs d'Overwatch 1 pourront jouer avec les joueurs d'Overwatch 2.
Pas de date de sortie, c'est Blizzard.
Pas de date de sortie, je pense qu'il faut au moins attendre l'année 2021 pour voir ça. On va passer à une autre annonce, World of Warcraft, donc l'extension Shadowlands qui a été annoncée, où on ira dans les royaumes de la mort. Voilà, en gros, Sylvanas, qui est maintenant la grande méchante depuis la dernière extension, se pointe en face du Lich King Bolvar, lui pète la gueule, prend son casque, le fracasse en deux et déchire le voile entre la réalité du monde des vivants et la réalité du monde des morts.
Qu'est-ce qui pourrait mal se passer, quoi ?
Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? Ça a l'air plutôt sympa au niveau histoire, c'est quelque chose de nouveau.
On continue dans la lancée ultra-narrative.
Alors que depuis des années, Blizzard sur World of Warcraft utilise tout le lore qui avait déjà été créé en fait à l'époque et qui avait été peaufiné au fur et à mesure, et là on part vraiment sur quelque chose qui n'a jamais été exploré avant. Sinon, pour quand même avancer un petit peu, donc 5 nouvelles zones avec une capitale, 10 nouveaux niveaux à monter, le niveau max va baisser. Ils vont réduire les niveaux, on va passer à 60 niveaux en fait, comme avant.
D'accord.
Donc l'extension se passera sur les niveaux 50 à 60. À l'heure actuelle, on est niveau 120, donc ça veut dire que tous les joueurs 120 vont repasser niveau 50.
D'accord, et
voilà.
Ceux qui étaient...
Tout en gardant leur puissance, etc. Voilà, ils revoient et ils vont revoir toute la mécanique de leveling. On assure beaucoup plus de travail autour des classes pour remettre en avant la classe de personnage et puis les spécialisations comme c'était le cas, et beaucoup de compétences qui avaient été retirées ou qui avaient été données exclusivement à une spécialisation maintenant vont revenir dans le pool commun des classes. Sinon, un nouveau système de Covenant qui seront plutôt plus ou moins des espèces de factions qu'on va devoir choisir, et on n'en aura qu'une seule. Et cette faction va nous donner accès à des bonus, des talents, des nouveaux skills, des apparences d'armure exclusives à cette faction.
Mmh.
Et aussi, dans une des zones, il y aura un truc qui s'appelle la Tour de Torghast et qui sera plus ou moins une espèce de donjon façon roguelike. On va gravir les échelons. En gros, il y aura un nombre d'étages illimité. Et plus on va monter, plus la difficulté sera élevée. Et on va récupérer à la fin de chaque niveau une puissance qui s'appelle l'anima et qui permettra de booster notre puissance au sein de cette tour pour pouvoir devenir plus puissant et continuer à monter les niveaux.
Ce qui est basiquement le principe des donjons infinis de Final Fantasy, en fait.
Oui, mais du coup, c'est plutôt sympa de rajouter ça dans World of Warcraft. C'est quelque chose qui manquait un petit peu. On va passer sur Diablo 4.
Il y a un Diablo 4
annonce.
Ah bon ? Incroyable.
Incroyable, on ne l'avait pas du tout annoncé par rapport à cette histoire d'artbook qui avait été annoncé.
Je m'y attendais pas.
Sortir. Donc voilà, Diablo 4, toujours du hack and slash, mais ce coup-ci, ça sera en monde ouvert.
Oui, c'est la nouveauté.
Donc vraiment une seule grande région. Enfin, ça explorera 4 régions du monde de Diablo, mais dans une seule map. Et puis bien sûr, avec plein de petites maps instanciées du type donjon et compagnie, des grottes, des souterrains, des égouts, et quoi, etc. La direction artistique, elle est plutôt dans la veine de Diablo 2. Hein, on revient aux sources, quelque chose
on revient à quelque chose de gothique.
Ouais, de gothique, de sombre, gore, angoissant, comparé à troisième épisode qui était très comics.
Ils étaient très World of Warcraft, en fait.
Très World of Warcraft, ouais.
Des couleurs un peu saturées, c'était très joli, mais...
C'était très sympa, hein. Visuellement, c'était super chouette, mais ça dénaturait un petit peu
ça s'éloignait pas mal de Diablo.
Dans Diablo avant.
Bah, disons que c'était passé tellement de temps entre le deuxième et le troisième épisode, ils se sont dit que les goûts du public avaient changé et ils ont voulu faire quelque chose de plus actuel, alors qu'au final, le public réclamait quelque chose dans la veine de ce qui était fait avant. Quoi.
Ils réclamaient du Diablo. Ouais.
Puisque les joueurs de Diablo 3, c'était des joueurs de Diablo 2. Hein.
Mais c'était assez amusant de voir qu'ils ont, comme ça. Pendant toute cette période-là, ils ont eu une politique de lissage où tous les jeux avaient une esthétique qui était assez proche. StarCraft 2, Diablo 3 et World of Warcraft avaient pas mal de points en commun. Donc, ils avaient fait une sorte de lissage pour toucher un maximum de leur public de fans de World of Warcraft pour qu'ils aillent jouer aux autres jeux.
Oui.
C'est très intéressant, mais du coup, maintenant, ils peuvent vraiment se permettre de faire un vrai
D'ailleurs, le système de talent et de compétences de Diablo 3 qui ressemble à ce qui est devenu justement le système de talent dans World of Warcraft.
Et oui.
Qui donne des choix du coup assez limités. Et là du coup pareil, c'est un retour en arrière. On aura une personnalisation plus poussée que dans le troisième épisode du coup, avec des points de skill. Donc on va devoir choisir en fait les compétences de notre personnage et mettre des points qu'on va gagner à chaque niveau dedans pour les débloquer et les améliorer, et aussi un arbre de talent.
Et potentiellement des choix définitifs, donc pas...
Apparemment, les talents seraient resettables, mais les points de skill qu'on choisirait seraient définitifs.
C'est ça.
En tout cas, c'est ce qui a été dit pour l'instant. On a un système de runes, qui pareil, revient sur quelque chose qui avait disparu dans Diablo 3 alors que ça existait dans Diablo 2.
Oui, c'était un peu le endgame de Diablo 2.
Oui, c'était un peu le endgame de Diablo 2. Donc les runes, on aura deux types de runes, des runes de condition et des runes d'effet. Donc les runes de condition vont donner les conditions en fait pour déclencher l'effet qui sera donné par la rune d'effet.
Ouais.
Donc par exemple voilà une condition du genre à chaque fois que vous buvez une potion, du coup vous allez pouvoir mettre un effet, vous donner plus 50% de critique pendant 3 secondes, et c'est du coup ça. À chaque fois que vous allez boire une potion de soin, et ben vous allez gagner cet effet là. Et il y en aura plein de différents et ça sera customisable, du coup ça a l'air plutôt sympa.
Du travail de théorie crafting en vue,
ouais.
Sans doute.
Et sinon, petite autre nouveauté, apparemment Blizzard voudrait faire en sorte que le jeu soit crossplay. Et que
donc
du
sur
coup,
toutes les plateformes.
Alors, il va sortir sur toutes les plateformes, hein, comme c'est le cas. Diablo 3 vient même de sortir sur Switch récemment. Mais du coup, il va sortir sur un maximum de plateformes. Bon, pour l'instant, c'est annoncé PC et sûrement PS4, Xbox One, enfin, ou les prochaines, hein, parce que c'est pas prêt de sortir.
Parce que sinon, il n'y a pas de crossplay.
Ouais. Et donc, ça sortira peut-être sur Switch aussi. Et l'idée, c'est que du coup, les joueurs de toutes les plateformes puissent jouer ensemble. Pas de date de sortie annoncée pour l'instant,
hein,
et je pense qu'il faudra attendre au moins 2 bonnes années, ça sera sûrement fin 2021.
Et ne pas s'enthousiasmer
et encore,
trop.
C'est juste un pronostic perso.
Ne pas trop s'enthousiasmer, ça reste Blizzard, le jeu peut beaucoup changer d'ici là.
Ouais. Donc voilà, ça y est, on a fait le tour de cette BlizzCon, et du coup, ça va être l'heure de se quitter. Merci d'avoir été avec moi, tous les deux.
Il n'y a pas de quoi.
Plaisir.
On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle émission. On parlera sûrement de Death Stranding, je pense. Hein, on
y a
aura eu le temps
chances,
d'y jouer entre temps. On vous dit du coup à dans 2 semaines, hein, mardi 18h30, comme à chaque fois.
À la prochaine.
Ciao.